Message à caractère informatique.
Message à caractère informatique.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Messages à caractère informatique, épisode 146. Et comme vous pouvez voir, aujourd'hui c'est un épisode live. Live depuis le forum PHP de la FUP à Disneyland Paris, en effet. Et j'ai avec moi des gens merveilleux tels que Laetitia. Bonjour Laetitia.
Bonjour.
Jonathan. Bonjour Jonathan.
Bonjour.
Et Jérémy. Bonjour Jérémy.
Bonjour.
Bon bah, je pense que, comme dans tout épisode, on peut commencer par un petit tour de table. Alors, gardons l'ordre. Laetitia, tu peux te présenter un petit peu, raconter ce que tu fais, qui tu es et pourquoi tu es ici aujourd'hui?
Alors, je m'appelle Laetitia Avro, je suis experte PostgreSQL et je suis ici parce que hier, j'ai donné une conférence où j'ai défendu le SQL injustement calomnié et diffamé par les développeurs, où on l'accusait de tous les maux, lenteur, complexité, ancienneté, etc. Et j'ai défendu le SQL en démontrant qu'en fait le problème c'était le manque d'enseignement et de connaissance du langage.
Au moins il n'a pas dit que le problème c'est les développeurs, mais bon, on reviendra. Jonathan, qui tu es et qu'est-ce que tu fais ici?
Je suis développeur, je suis aussi speaker, j'ai mon talk juste après. C'est sur les workers, les jobs et les erreurs que la plupart des gens font et que je vois tout le temps, partout, peu importe le langage. Donc, c'est important de le souligner. Et sinon, ben, au quotidien, je suis un senior dev, un peu architecte, un peu lead. J'aime bien partager ce que je trouve. Et voilà.
Parfait.
Et aussi, je suis sous le pseudo Grumpy en ligne.
On mettra tout ça. Et Jérémy, qui tu es? Qu'est-ce que tu fais ici?
Alors, moi, je suis plutôt un sysadmin à la base, donc je suis pas développeur et je suis pas speaker, en tout cas pas dans cette conférence. Et donc, moi, je suis responsable de l'infrastructure à Neox IT. Et donc, en fait, je suis là avec toute une équipe. On est 10 quand même en tout. Ouais, être là
parce qu'on a beaucoup de. Ils sont venus en force.
Ouais, on est venus en force. Parce qu'on a pas mal de devs PHP, même si on fait aussi d'autres langages, donc c'est une conférence intéressante pour nous d'y participer.
Bon, bah, et moi c'est Horacio González, si vous suivez les Massi, vous me connaissez, moi et mon accent. Donc, je disais tout à l'heure, la conférence se passe à Disneyland Paris, c'est un peu étrange d'être dans une conférence dans l'hôtel Marvel de Disney, non?
Bah déjà, moi, ça m'a permis d'acheter des choses dans les boutiques Disney. Hein.
C'est un bon argument.
Ouais, voilà, les boucles d'oreilles Captain Marvel, on les trouve nulle part ailleurs. Et puis, y a 2 ans, j'avais prolongé le séjour avec mes filles et on s'était bien marré. Donc, ouais, pourquoi pas, je veux dire, pourquoi pas allier l'utile à l'agréable.
Bon, quitte à avoir les micros, donc tu disais défendre SQL. Tu penses que SQL a besoin d'être défendu? Tu trouves que les développeurs ont un petit biais anti-SQL ou par manque de connaissances peut-être?
En fait, c'est... alors, ça, c'était il y a 10-15 ans, vraiment, le moment NoSQL... Bon, ils en sont revenus parce qu'en fait, le NoSQL a ses cas d'usage, mais la majorité des cas, quand même, on les a résolus dans les années 70 et début des années 80 avec le SQL. Alors, le SQL n'est pas du tout le meilleur langage pour les bases de données relationnelles, mais c'est celui qui a gagné. Donc,
Betamax, VHS et tout ça, non?
Oui. Donc, maintenant, c'est un standard de l'industrie, un standard de fait. Donc, et surtout, ce que je voulais démontrer, c'est que je vois énormément d'erreurs faites par les développeurs et les développeuses qui font perdre énormément en performance. Et le pire, après, c'est qu'on accuse SQL en disant « Ouais, t'as vu, la base, elle est lente. » Non, c'est pas la base qui est lente, c'est la requête qui est mal écrite, c'est la manière d'envisager le SQL qui est mal fait.
Etienne, donc, j'aime bien les sujets légèrement polémiques, mais là, la question est pour de vrai. Mais aujourd'hui, beaucoup de développeurs ne touchent vraiment plus à SQL. Ils passent par des ORM qui font toute la magie d'SQL derrière. Quel est ton avis sur ces façons de faire?
Alors, les ORM, de manière générale, moi, ce que je peux dire, c'est quand je suis appelé chez un client pour un problème de perf, dans 95% des cas, il y a un ORM. Et il en est la cause. Donc, après, je ne suis jamais appelé quand il n'y a pas de problème. Hein. Donc il y a un
petit biais de pompiers, quoi. On appelle ça les biais de pompiers.
Mais par contre, ce que je vois, c'est que les ORM essayent aussi d'être agnostiques de la base de données. Et du coup, ils se focalisent sur un tout petit sous-ensemble du SQL, alors que le SQL peut faire beaucoup plus de choses. Et puis après, on a aussi des erreurs d'implémentation avec les N plus 1 requêtes, ce genre de choses dont je parle dans ma conf, qui sont faits parce que les ORM ne sont pas faits par des experts en base de données, en fait. Ils sont faits par les développeurs pour les développeurs.
Et je pense que le côté agnostique est pour quelque chose aussi. Le côté de on va niveler la version de SQL la plus universel, quelque part, ça réduit les possibilités.
Moi, ce que je voulais dire aussi, parce que je suis assez d'accord qu'on a un manque de connaissances du côté des devs, mais c'est aussi, les devs ne pensent pas toujours à aller voir dans les outils qu'on a. Si on met en PHP, on a la debug bar. Dans tous les frameworks, il y a des debug bar agnostiques qu'on peut installer. Et on a des informations sur les requêtes qui sont exécutées. On a les explain plans, etc. Et ça vaut la peine de prendre le temps d'apprendre à les utiliser parce que dans ce cas-là, on n'a pas besoin de pompiers, en fait.
Apprendre à les utiliser. Là, par contre, il y a une courbe d'apprentissage certaine que beaucoup de développeurs n'apprennent pas dans leur cursus, ni quand ils arrivent en entreprise. Je veux dire, les développeurs apprennent le langage, des frameworks, mais la base de données, c'est toujours mis comme un truc à part une externalité de ton appli que tu fais avec. Au moins, dans beaucoup de cas, je n'ai pas vu l'apprentissage de ces outils. Oui. Ça arrive par des gens curieux un peu plus tard dans la carrière.
Alors moi, je dirais, puis je vais laisser la parole à notre experte, c'est que, comme tous les outils qu'on utilise, parce qu'il y a SQL, mais il y a aussi des choses comme Elasticsearch, comme du Redis, comme plein d'autres sources externes, et d'ailleurs j'en parle dans ma talk, c'est qu'en fait, il faut les apprendre, il faut les apprivoiser, et c'est pareil pour le framework, c'est pareil pour tous les outils. C'est un apprentissage constant, et si on ne prend pas le temps d'apprendre nos outils, en fait, on passe à côté de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses.
Alors moi, je voudrais quand même nuancer en disant que ce n'est pas forcément de la faute des développeurs, c'est de la faute des managers qui ne laissent pas forcément le temps aux développeurs de faire les choses. Je veux dire, quand on met les commerciaux en lead et qu'ils disent « Oh, cette feature, il y en a pour une semaine », on sait très bien comment ça se passe. Et je n'en veux pas aux développeurs de ne pas prendre ce temps parce que très souvent, on ne leur laisse pas le temps. On ne considère pas que la veille technologique fait partie du travail de développeur, ce qui est une faute énorme. Parce qu'un développeur ou une développeuse qui ne continue pas à apprendre dans 5 ans sur le marché du travail, il ne vaut plus grand-chose.
Ça, c'est un autre biais. Le biais qu'on considère que comme beaucoup de développeurs aiment leur métier, la veille techno, ça doit être une passion qu'ils font les soirs et les week-ends, quoi.
Oui, alors c'est vrai que je suis un peu d'accord. Effectivement, si on ne donne pas aux développeurs l'occasion de continuer une veille, ça peut devenir très compliqué. Nous, on essaie quand même de le faire, en l'occurrence, et on a quand même des problèmes de requête SQL, il ne faut pas se leurrer. On en avait parlé hier, vous savez, l'exemple que tu as pris dans ta conf, c'est un exemple que moi j'ai vu pour le coup. C'est qu'on avait vu une requête qui n'avait jamais abouti au bout de 9h30. Petite requête. et en fait, en l'occurrence, c'était moi parce que j'ai eu l'occasion de voir la requête et en la voyant, je me disais, je pense qu'il y a moyen de la changer. Et en fait, quand je l'avais réécrite, j'ai dit, je pense que ça ne va pas durer très longtemps là et elle a duré 2 secondes. Voilà, donc de 9h30 à 2 secondes. En SQL, on peut faire des sacrés
gains de performance.
Voilà, c'est un gain de... Enfin, 9h30, même pas fini. Hein. Je ne sais pas si elle aurait abouti un jour. Mais oui, justement, ça existe. Mais dans tous les cas, quand on est développeur un peu junior, ce n'est pas forcément toutes les subtilités du SQL. Et évidemment, il faut se former dessus. Et c'est un outil aujourd'hui qui est hyper critique dans nos métiers. En tout cas, pour nous, à New York City, on a énormément de bases Postgres. En l'occurrence, c'est très important de savoir quand même maîtriser une partie de cet outil et de se concentrer uniquement sur le framework qui fait tout magiquement ou l'ORM pour nous, que c'est pas toujours fonctionnel.
Et si je peux rajouter un truc, on n'arrête pas de dire en ce moment l'IA va remplacer les développeurs. En fait, il faut savoir quand même que l'IA se forme sur ce qu'elle trouve et le niveau moyen SQL est extrêmement bas. Donc, pour être sûr de ne pas être remplacé par l'IA, suffit juste d'apprendre un peu de SQL et vous serez bien au-dessus du niveau.
Et moi, je voudrais juste complémenter ce que tu as dit. C'est pas spécialement que les juniors, en fait, c'est même les seniors. Parce qu'en fait, quand on est dans notre quotidien, quand on est le nez dans le guidon, on voit pas ce qu'on fait. Et c'est souvent là où on a besoin, à un moment donné, d'appeler des pompiers, des consultants, ou peu importe. Parce qu'en fait, souvent, on travaille dans le quotidien, on fait du mieux qu'on peut, on a la pression qu'on a, et en fait, on voit pas. Et ce qu'il faut, en fait, c'est arriver à prendre du recul et se dire, ok, est-ce que j'ai vraiment besoin d'un pompier ou est-ce que je peux essayer de faire déjà une partie moi-même, passer de 9 heures à 2 secondes, ou alors parfois on s'en sort pas, parce que moi je vois bien dans mon boulot, on est pas mal de seniors dans mon équipe et à un moment donné on a quand même fait appel à un pompier en SQL, parce que justement il y a des choses qu'on voyait pas. Et puis c'est des problèmes aussi infra, c'était pas que dev, parce que ça arrive aussi, c'est pas c'est chez tout le monde les problèmes, hein. Donc et une fois que les problèmes ont été résolus, oui, ça a été beaucoup mieux. On a aussi eu des requêtes qui prenaient un certain temps et qui se passaient à quelques secondes voire millisecondes, donc voilà.
Mais la réflexion sur la IA, je la trouve intéressante. Effectivement, les SQL, c'est parmi ces sujets-là que comme il n'y a pas assez d'exemples de qualité, les moteurs ne vont pas te donner des résultats de qualité. Ça a tendance à boucler là facilement.
Ouais, en ce qui concerne l'IA, effectivement, ça dépend vraiment des sujets. Alors là, dans cette conférence, il y a beaucoup de talks IA, pour le coup, qui sont très intéressants, d'ailleurs. Mais c'est vrai que selon les sujets où... Enfin, moi, je suis un peu plus infra, pour le coup. Mais donc, il y a des sujets sur lesquels je travaille, par exemple, qui sont sur le stockage, avec, par exemple, ZFS, des file systems qui sont, entre guillemets, moins connus. Et le nombre d'erreurs qui sont dans ces trucs-là est vraiment hyper important. Et en SQL, effectivement, on l'a également constaté, les requêtes ne sont pas d'une qualité, d'une très bonne qualité, quoi. On a quand même des requêtes qui sont largement améliorables par un humain qui, pour l'instant, en tout cas, Claude, ChatGPT, tout ça, ne sont pas à la hauteur sur le SQL.
Donc, comme Laetitia a dit, si vous ne voulez pas vous faire remplacer, apprenez SQL. Bon, on va faire un petit tour. Déjà, toi, tu ne nous as pas trop parlé de ton talk. Raconte-nous un peu plus, parce que le titre, ça avait l'air intéressant. Ouais. Donc, il va falloir expliquer plus.
Le titre exact, parce que j'ai du mal, c'est « Job queue and event, anatomie des erreurs courantes et pistes de résolution ». Donc, en fait, quand j'ai soumis le talk, j'ai soumis plusieurs talks, et celui-là, c'est celui que j'ai... Je soumets toujours un talk en mode « Oh, c'est un sujet... » J'y vais, puis je verrai bien. Malheureusement, c'est celui-là qui a été choisi.
Conference Driven Development.
Voilà. Et en fait, à un moment donné, j'ai fait un plan avec tout ce que je voulais dire. Et puis, je me suis dit, ça me paraît fort long. Je l'ai mis dans une IA en me disant, je vais voir ce qu'il me dit en termes de bullet point et combien de temps il estime. Je suis tombé sur 2h30. J'ai 40 minutes. Question comprise. Donc j'ai fait, ok, qu'est-ce que j'élimine? J'ai regardé ce que l'IA m'a produit, c'était pas terrible. Donc je suis plutôt retourné sur la description du sujet que j'en ai fait. Et j'ai été à l'essentiel, en fait, c'est-à-dire ce que j'ai vu à travers, parce que ça fait quand même 25 ans que je fais du PHP, j'ai regardé tout ce que j'avais vu dans les différents workers, que ce soit parallèle, async ou autre, qui était en erreur, que ce soit en PHP ou dans d'autres langages, que ce soit du Python, du JavaScript ou que sais-je. Et dès que il y avait des choses qui faisaient planter le worker, parce que on avait oublié de gérer des problèmes de SQL, des problèmes liés à l'ORM qui s'arrêtent parce que il y a eu une erreur de concurrence, des problèmes parce que simplement on n'a pas catché une erreur, des choses qui sont relativement basiques, mais même si on le répète, on les voit tout le temps. Et donc je me suis dit, on va y aller et je vais parler surtout de choses comme ça, en fait, qui fait que les workers plantent, on ne sait pas pourquoi, mais je veux aussi mettre 2-3 petites pistes de réflexion sur le fait de discuter avec l'infra, parce que c'est important de leur dire, est-ce que notre worker, qu'est-ce qui arrive quand il plante? Est-ce qu'il faut le relancer automatiquement? Est-ce que au bout d'un certain temps, il faut pas faire quelque chose? Être attentif à la manière dont il va s'arrêter. Et donc, par exemple, quand on est dans un environnement Unix, prendre les signaux pour lui dire de s'arrêter. Hein, des choses qui, moi, me semblent basiques, sauf que je ne les vois pas. Quand j'en discute avec des collègues, on me regarde parfois un petit peu, oui, c'est évident, mais en fait, ils ne le font pas. Je ne le fais pas non plus parfois. Donc, oui, c'est en fait tous les mêmes erreurs. Et donc, c'est l'occasion d'en parler et puis de voir si ça résonne et s'il y a des gens qui peuvent attraper une ou deux choses pour améliorer leur processus chez eux.
J'aime bien ce type de talk retour d'expérience comme ça. Bon, et sinon, vu que c'est un massif, on va parler un petit peu des news et des sujets que vous tenez à cœur côté tech. Bon, c'est le moment où Laetitia va sortir la longue liste qu'elle a préparée parce que elle fait ses devoirs et elle prépare, quoi. Alors, je vais te laisser suggérer la première.
Alors, je voulais parler de Postgres 18. Il se trouve que hier, Clever a annoncé l'arrivée de Postgres 18 chez Clever Cloud, ce qui est assez impressionnant puisque Postgres 18 est sorti il y a 10 jours. Ouais,
il est sorti le 25 septembre. Je le sais parce que ce même jour-là, on a fait un meet-up où on a parlé des nouveautés de Postgres 18. Ouais. La date était bien avec nous. On l'avait prévu depuis 3 mois. C'est tombé pile poil 2 heures après la release officielle.
Donc, Postgres 18, pour ceux qui ne savent pas, c'est une release qui a été préparée entre mai 2024 et mars 2025. Puis ensuite, il y a le feature freeze et différentes bêtas, alpha, puis bêta, release candidate et ensuite la version est sortie. Cette année, elle est sortie plutôt tôt parce qu'il faut savoir que le projet Postgres n'a pas de deadline puisqu'on est tous bénévoles, donc ça sort quand c'est prêt. Il y a des fois, c'est sorti en novembre, des fois en octobre. Là, c'est sorti en septembre. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas eu trop de bugs sur la phase bêta et release candidate. Ce qui est plutôt bon signe. Ou pas.
Etienne, avant que tu nous racontes des nouveautés,
oui.
Parce que je suis persuadé que beaucoup de personnes qui nous écoutent n'ont pas cette connaissance-là. Comment ça se passe justement le processus de release pour Postgres, par exemple? Je sais que chaque projet open source est un peu différent, mais vous, tu nous as parlé depuis 2024, c'est un processus long et bien structuré. Raconte un petit peu comment ça se passe.
Le projet Postgres est extrêmement strict. C'est-à-dire que si le feature freeze est passé, il n'y aura plus rien qui pourra être ajouté. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire qu'il n'y aura aucune dérogation. Même s'il y a une super feature de la mort qui tue, ça ne passera pas. Il faut dire que le projet PostgreSQL n'a pas de client, en fait. Donc, ça aide à ne pas avoir de pression. pareil sur les mineurs et les majeurs. Version mineure, il n'y aura jamais de nouvelles fonctionnalités dedans. C'est que des corrections de bugs, failles de sécurité, etc. Donc, on ne fait que du correctif dans les mineurs. Ce qui veut dire que les mineurs sont très safe. Et bien sûr, il faut lire les release notes pour voir les changements. Mais faire un upgrade de mineur en Postgres, ce n'est pas grand-chose. Ça veut dire aussi que les développeurs et développeuses qui nous disent « Ah non, mon produit, il ne marche que dans telle version mineure de Postgres », vous montrez juste que vous ne connaissez pas Postgres. je suis désolée, mais ça veut juste dire qu'eux, ils ont utilisé telle version. Mais en fait, vu qu'il n'y a pas de différence de fonctionnalité entre les versions mineures de Postgres, ça n'a pas de sens, en fait. La recommandation devrait être, il faut utiliser telle version majeure et la dernière release mineure de la version majeure. Oui.
Moi, j'ai une question, parce que au boulot, nous, on utilise Maria, et à un moment donné, on a eu un souci, justement, dans une version mineure, où en fait, il y avait eu un petit bug fixe, sauf que ce petit bug fixe avait fait péter certains types de stockage, si jamais on avait plusieurs nodes et qui pointaient sur des mêmes stockages ou ce genre de choses, enfin, c'était une configuration un peu particulière. Qui arrivait surtout en local, mais toujours est-il que il y a jamais ça du côté de Postgres, des trucs, ça arrive par accident, hein, mais voilà.
Si, ça est arrivé, il y a certaines versions mineures où on les a sorties, une semaine après, on a dit stop, surtout n'installez pas cette version mineure, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a un problème grave dessus. Ça arrive, c'est rare, mais ça arrive. Bien sûr, il n'y a aucun logiciel qui a zéro bug.
Non, mais c'est jamais.
Non, le process est quand même assez long et on essaye de le faire bien, mais personne ne peut dire j'ai zéro bug de mon appli. Enfin, celui qui dit ça, je ne le crois pas. Donc, c'est un process très stable qui marche bien. Donc ensuite, quand on est en release candidate, en fait, on a la chance avec Postgres d'avoir des entreprises qui contribuent en Postgres en mettant en prod des versions bêta ou release candidate de Postgres, ce qui nous permet de tester Postgres sur du gros volume. Parce qu'il faut savoir, là encore, on est tous bénévoles, donc bah, on n'a pas des machines. Alors oui, on a quand même on a des builds automatiques de Postgres sur des fermes de machines pour essayer sur plein d'OS différents, etc. Mais on n'a pas non plus des volumes de prod énormes. Quoi. Donc on fait des tests.
Et rien ne vaut la vraie prod pour
voilà,
tester. Quoi.
L'avantage pour ces entreprises, c'est qu'ils sont en contact direct avec les développeurs de Postgres pour corriger les bugs qu'ils trouvent et qui sont corrigés très rapidement. C'est-à-dire qu'eux, ils sont relativement sereins quand ils passent sur la nouvelle version.
Et question, combien de monde vous êtes dans la core team, en gros?
Alors, moi, je ne suis pas dans la core team. La core team de Postgres, c'est 7 personnes. Ce n'est pas forcément les plus grands développeurs, même si pour arriver dans la core team, il faut plusieurs années de contributions majeures. Mais en fait, la core team ne fait que de l'administratif. Il gère tous les problèmes de la communauté. On a eu un problème de trademark avec quelqu'un qui avait déposé la marque PostgreSQL Community, par exemple. Donc, c'est quelque chose que la core team a géré. Les développeurs, en fait, sur chaque version, c'est à peu près une centaine. Mais c'est très disparate. Il y en a qui sont payés par leur entreprise à 100% pour développer pour Postgres. Enfin, 100%, même pas, disons, 80% et 20% du temps, ils font du support en interne pour les équipes. Et puis, il y en a, comme moi, des fois, c'est le week-end, le soir. Forcément. Et en fait, ce qui est très cool dans la communauté, c'est si on n'a plus le temps de travailler sur un patch, il n'y a aucune pression. C'est vraiment, la pause, parce que je ne peux pas.
C'est cool de voir des communautés open source qui gardent cet esprit-là, c'est clair.
D'ailleurs, c'est quelque chose, faut bien se rendre compte quand il y a des projets open source. Il faut vous dire que la plupart du temps, à part s'il y a des enjeux financiers derrière, c'est des gens qui font ça sur leur temps libre. C'est très rare d'avoir des gens qui sont payés. J'en suis bien la preuve puisque actuellement, je suis le seul mainteneur sur un framework de test unitaire qui s'appelle Atom, qui est un framework de test unitaire en PHP. J'ai plus le temps. Ça fait plusieurs années que j'ai plus le temps et c'est vraiment compliqué parce qu'on a envie d'avancer. Et c'est d'ailleurs un problème en open source de manière générale, c'est quand on a un produit qui à un moment donné avait plus de gens, puis il y a moins de gens, puis il y a nouveau plus de gens, mais c'est pas toujours évident de suivre plutôt que de râler parce que quelque chose n'avance pas, prenez du temps sur vous pour venir contribuer. Et contribuer, c'est pas nécessairement juste corriger des bugs ou ajouter des nouvelles features, c'est essayer de comprendre un bug et de donner un cas reproductible, c'est venir documenter ce qui existe, éventuellement refactorer la documentation. Si vous êtes designer, front-end, venir proposer des nouveaux designs, c'est venir parler, parce que parler d'un outil open source, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, et la plupart des produits open source que vous allez trouver, vous pouvez poser des questions aux contributeurs. En général, ils sont faciles d'accès et ils seront très heureux de vous proposer des choses à faire parce que on n'a pas assez de gens qui contribuent. Et moi, j'ai l'impression qu'avec le temps, ça diminue le nombre de contributeurs par rapport à il y a 20 ans. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une baisse de participation dans l'open source.
Ça, je ne sais pas trop dire. Qu'est-ce que tu penses, toi? Tu trouves qu'il y a une baisse de...
Alors, moi, ça fait seulement 20 conférences.
Il doit partir à son talk. Il a une super excuse. Bon courage.
Moi, ça fait seulement depuis... j'ai rejoint la communauté en 2009, mais ça fait seulement depuis 2017 que je contribue réellement. Donc, je n'ai pas vu un changement à ce point. Ce que je vois, c'est que la communauté Postgres vieillit. Ça, c'est sûr.
Mais ça, on le voit aussi dans plein de communautés et dans des meet-ups, dans des conférences. Moi, je vois que dans plein de meet-ups, moi, j'avais démarré il y a 15 ans avec les Java User Group, quand on avait inventé en France. Je vois toujours les mêmes gars et filles qui ont viagé avec moi, qui ont message, et la moyenne d'âge de public, ça continue à être mon âge, c'est fou. La moyenne d'âge de public monte avec moi.
Alors c'est vrai que surtout dans les conférenciers, je trouve qu'il y a, il y a une moyenne d'âge qui a quand même qui a monté. Après, je pense qu'on fait quand même, bah, Clever en l'occurrence en partie, mais nous aussi, on fait quand même beaucoup d'efforts d'avoir d'amener des jeunes en conférence pour qu'ils voient et aussi leur donner envie de, d'être speaker. Moi, j'essaie de pousser les gens.
C'est très bien, c'est une bonne chose à faire.
C'est parce qu'en fait, c'est vrai que enfin, moi j'ai fait quelques talks. Après, je suis pas au niveau de Laetitia qui en est à plus de 100, mais c'est il faut se lancer en fait. Il faut pas hésiter. C'est vraiment si vous avez un sujet qui vous intéresse, qui vous passionne et qui est lié à l'informatique en l'occurrence, mais à l'open source en particulier. Vous trouverez toujours une conférence qui dans le sujet et vous pourrez submettre votre talk et puis avec un peu de chance vous serez pris et même si vous n'avez pas besoin d'avoir 20 ans d'expérience dans la techno quoi.
Et pour démarrer, il n'y a pas que les conférences, il y a aussi les meet-ups. Oui. Essayons de garder en vie tous ces meet-ups là qui ont de mal à trouver de nouveaux speakers. Boba, tu avais d'autres news et nous allais nous parler aussi de ces nouveautés de Postgres Suite.
Oui. Alors, j'ai essayé d'aller à l'essentiel pour les développeurs et les développeuses. Il y a 2 ans, j'avais parlé des index dans Postgres et j'avais dit, attention, quand vous faites un index sur plusieurs colonnes, colonne A, B, C, dans votre where, il faut qu'il y ait au moins la colonne A. Par exemple, si on fait where A égale et B égale, ça va marcher. Mais si on fait where B égale et C égale, comme on a mis l'index avec l'ordre des colonnes A, B, C et qu'il n'y a pas la colonne A, il ne peut pas utiliser index. Eh bien, Postgres a implémenté le skip scan sur les index bitree, ce qui fait que dans ce cas-là, il pourra utiliser cet index. Ça veut dire qu'on va réduire drastiquement le volume d'index sur les bases de données, ce qui veut dire que ce sera plus performant.
Bien.
Après, on a la clause returning dont j'ai parlé hier. Donc, returning, en fait, c'est quand on fait une modification, insert, update, delete, on peut renvoyer les données. Alors, avant Postgres 18, on pouvait renvoyer que les nouvelles données, les données mises à jour, ou delete, renvoyer les données supprimées. Maintenant, on va pouvoir renvoyer old ou new, notamment pour l'update. On va pouvoir renvoyer la totalité des données anciennes et des données nouvelles au programme. Donc ça, c'est super.
Donc, on va pouvoir vérifier ce qu'il a changé et qu'on est vraiment dans l'opération qu'on voulait, etc.
Oui. Les colonnes générées, donc moi j'adore les colonnes générées, c'est des colonnes en fait qui ne sont pas stockées, dans lesquelles, mais on va stocker la définition du SQL qui est calculée à partir d'autres colonnes de la même table.
Basiquement, ils sortaient des formules pour calculer une colonne à la volée.
Par exemple, si on stocke dans la base de données la date de naissance, on va pouvoir faire une colonne générée avec l'âge.
Parfait. Je vois bien.
Qui sera généré automatiquement sur
Et qu'on n'aura pas besoin de la faire nous côté application avec des codes.
Exactement. Alors après là c'est peut-être un exemple trop basique mais bon. Et en fait on va pouvoir avoir maintenant des colonnes stockées, générées stockées. Ça veut dire que on va pouvoir. Alors on avait déjà, les colonnes générées stockées, c'est-à-dire justement par exemple si on a une colonne où pour un produit on dit on en a importé tant, on en a vendu tant, il y en a, on va pouvoir calculer le stock. Mais là maintenant ce qu'on peut faire c'est justement au lieu de le stocker, si c'est une opération comme l'âge qui change tous les jours. Potentiellement, on va pouvoir le faire une colonne générée virtuelle. Et du coup, c'est pas stocké, mais on va pouvoir recruter cette donnée comme dans un select comme on le souhaite.
Nickel.
Et la dernière que j'ai choisie, c'est l'élimination automatique des self joins. Donc les self joins, c'est les jointures d'une table sur elle-même. Alors normalement, c'est une très mauvaise pratique. D'ailleurs, Marcus Winand, qui est une sommité mondial sur le SQL dit que les employés doivent se laver les mains après avoir utilisé une self-join. Et maintenant, l'optimiseur de Postgres est capable de supprimer automatiquement ces self-joins.
Ok. J'aime bien le fait d'avoir parmi toute la liste des nouveautés, les nouveautés choisies comme
oui,
ça.
Oui, parce qu'il y en a entre 100 et 150, c'est énorme.
Je vais profiter quand même d'une nouveauté que moi je connais aussi dans Postgres et je suis très content que la version 18 soit sortie parce que ça va m'aider à rédiger ma conf pour Riga. C'est en fait, il y a aussi des. Alors c'est plutôt côté infra pour le coup, mais on a des statistiques améliorées concernant tout ce qui est vacuum. en fait. Et donc, bon, tous ceux qui ont fini du Postgres ont peut-être eu un jour à se dire que c'est le vacuum, ça fait pas ce que je veux, il y a quelque chose qui a pas, ou comment ça marche, je comprends rien. Donc, en fait, dans Postgres 18, maintenant, il y a plus de statistiques sur ce qui se passe vraiment dans l'auto-vacuum et ce genre de choses comme ça. Donc, ça, c'est une des features que j'attendais avec impatience. Et donc, on commence aussi à déployer du Postgres 18 en production, là.
C'est, du... bah, c'est cool. Donc, Postgres 18, on a fait un petit tour. Est-ce que vous savez des projets, des outils, des découvertes ces derniers temps desquels vous voulez nous parler?
Oui, alors effectivement, j'avais pas mal réfléchi à cette question et il y a un projet qui me tient particulièrement à cœur, c'est Incus. Je suis plus sysadmin hein, que développeur, mais bon, ça fait plus de 15 ans que je travaille chez des éditeurs logiciels, donc je connais très bien les développeurs. Ça. Et donc en fait, c'est un outil open source donc qu'on utilise dans notre infrastructure. Donc c'est en fait un fork de LXD, qui est, même son ancêtre est LXC, donc ça a beaucoup de, il y a beaucoup d'historique. Mais c'est un outil qui permet de faire une plateforme de cloud en fait entière. Nous on l'utilise depuis très longtemps, on parle de ces déclinaisons LXD tout ça. Et en fait, ça permet de faire des containers système, qui sont pas forcément des containers comme Docker, on l'entend. Ça fait un petit peu, ça interagit comme, enfin, c'est comme une VM en fait, mais sauf que c'est un container. Et aussi de faire des machines virtuelles, tout ça. On a tout un système de clustering qui existe. On peut même faire tourner du Windows si vous voulez. Dans un... ça fonctionne aussi, même si nous on l'utilise essentiellement pour faire tourner des Linux. Donc c'est un projet open source que vous pouvez installer sur plein de distribs et donc voilà c'est oui tu voulais
t'as oublié de dire que ça permet de remplacer VMware.
Oui, alors
ça c'est un argument.
Oui, alors c'est vrai que oui, il y a eu un petit une petite augmentation de prix de VMware, donc c'est vrai que beaucoup d'entreprises ont cherché des alternatives. Bon, nous, on utilisait déjà LXD, donc on n'a pas eu trop ce problème. Mais ouais, il y a eu beaucoup de sociétés qui ont cherché des alternatives. Donc,
Et qui cherchent encore, c'est pas fini. Les mouvements Broadcom n'a pas encore fini de...
De perdre tous ses clients.
Oui, c'est oui. Ça. Il en reste quelques-uns. Enfin, bien entendu.
Oui, alors il y a plein de projets qui sont un petit peu revenus sur la brèche. Et aussi, il y a eu Xen aussi qui a eu un gain de popularité, enfin un regain de popularité avec depuis que VMware a commencé à monter les prix. Après, il y a d'autres projets comme du genre OpenStack. Donc pour le coup, OpenStack est quand même un projet qui est plus complexe à mettre en œuvre. Il faut une plus grosse équipe. Il y a Proxmox aussi, qui sont d'autres outils de virtualisation. Incus, lui, vraiment, sa particularité, c'est qu'on est avant tout sur du container system. Donc, ça fait une densité bien plus élevée que des VM, en fait, puisqu'on utilise le kernel de Lost. Et donc, pour ça, c'est très intéressant. Il y a aussi, pour nous, au niveau stockage, ça peut utiliser ZFS. Donc, nous, pour nous, c'est très intéressant parce que c'est un système de fichiers qui checksum chaque bloc. Donc, on élimine des corruptions. On utilise aussi CIF. Enfin, c'est vraiment un système très complet. Nous, on l'utilise sur plusieurs data centers avec un cluster par data center et des interconnects entre les clusters. Donc, ça nous fait une availability zone en fait qui est entièrement construite avec ce système. Donc voilà.
Donc super projet à creuser carrément. Et au fait, Jérémy, parce que c'est rare d'avoir un sysadmin dans notre podcast, en tant que sysadmin, un podcast comme le Massy qui parle plutôt aux devs, en quoi tu trouves ça intéressant? En quoi?
Alors effectivement, pour moi c'est très intéressant parce que bon, je travaille avec des devs tous les jours. Donc là, on est au forum PHP, donc on a des devs PHP, mais on a aussi des devs Java ou dans d'autres techno, du Python. Et pour moi, c'est toujours intéressant d'avoir le point de vue des devs pour que nous, en infrastructure, on soit capable de répondre vraiment aux besoins, de voir les tendances. comment ils fonctionnent, quels sont les enjeux, même si bon, j'en ai à la maison évidemment, NEDEF. mais on peut, c'est toujours intéressant d'avoir ce point de vue-là. Et aussi, on voit des fois où il y a des petits, on n'est pas tout à fait aligné. On se rend compte que l'infra a ses propres enjeux. Et donc, pour qu'on travaille tous ensemble correctement, bah, il faut quand même se dire, OK, bon, ça, c'est mon enjeu infra. C'est, pour moi, c'est super important. Mais pour un développeur, c'est moins important. Donc, soit il faut vulgariser, soit il faut réussir à trouver une abstraction qui fait qu'on peut mieux travailler ensemble. Donc, pour moi, c'est pour ça que c'est très intéressant. Voilà.
Et qu'est-ce que tu penses de toutes les mouvances DevOps de tous les côtés? On va mélanger des Dev et des Ops de plein de façons différentes.
Ok, alors, ouais, effectivement, j'ai pas mal d'avis là-dessus.
J'ai même douté.
En fait, nous, on a des développeurs vraiment très talentueux qui sont vraiment... j'apprécie beaucoup. Attention, si je commence comme ça, souvent, il y a peut-être un mais.
Il y a un mais qui arrive. Voilà. On le sait d'arriver.
Voilà. C'est donc... qui sont vraiment des experts dans leur domaine. Mais, et voilà, le fameux mais. Ça reste des sysadmins, on va dire, moyens, au mieux. Et donc, en fait, je sais que la mouvance DevOps, c'est une mouvance très importante. Mais des fois, on se retrouve donc avec des architectures qui sont... Enfin, ils essayent de faire de l'administration système et réseau. Et ils font bah, avec leurs connaissances. Bon, c'est beaucoup moins important. Et au final, on se retrouve avec des aberrations qui arrivent où vraiment, ça n'avait aucun sens. Et on a des erreurs qui, pour nous, sont grossières. Donc alors, évidemment, on a toujours envie de se dire, ouais, on arrivera à faire sans infra, quoi. On fera que les devs et 100%, on arrivera à tout faire. La réalité, c'est que ça peut marcher, sur la condition de mettre des machines, t'es mesuré. Non, parce que c'est...
Sur un malentendu, ça voilà. Peut marcher.
Non, mais je prends souvent cet exemple, mais devs, donc, qui sont vraiment des experts, hein, et donc, en fait, à un moment, il y avait un bug, et donc en fait leur solution c'était bah, c'est pas grave, mettons 10 fois plus de machines. Oui, alors effectivement c'est vrai qu'en mettant, alors au bout d'un moment normalement ça ne marche plus hein, de toute façon hein, mais c'est vrai que c'est souvent on dit bah non, bah, si mettons plus de machines, de toute façon les machines coûtent moins cher que de recruter plus de devs, donc pas besoin de fixer le code, on va juste multiplier l'infrastructure par 10. Alors ça marche pas, ça ne tient pas sur la durée. Et effectivement, c'est là où on voit que même si on dit oh, on a plus besoin d'infra, en vrai, on a quand même besoin de gens comme moi, j'espère, qui savent de quoi ils parlent pour optimiser ça et travailler en bonne intelligence avec les développeurs.
Je voulais rajouter quelque chose, c'est les développeurs ont toujours été tenus loin de la prod. Donc, ils savent pas ce que c'est. Eux, ils n'ont pas les appels à 2 heures du matin. Et surtout, en termes de sécurité, je ne confierais pas ça à un dev. C'est là où j'ai vu les pires aberrations des bases de données ouvertes sur Internet en trust. Ce genre de choses, c'est pas des infras qu'on fait ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le DevOps. Au départ, l'idée est bonne, c'est-à-dire de travailler ensemble pour aller dans la même direction. J'adore l'idée. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les ops ont appris à développer. Et en plus, ils ont appris à développer uniquement, en fait, pour automatiser ce qu'ils faisaient avant, alors qu'ils automatisaient déjà. Hein. C'est juste que c'était en Bash, maintenant c'est en Python. Mais en fait, c'est juste un changement de langage pour l'infra. Et en fait, ce qu'on appelle DevOps, c'est juste un nouveau nom pour l'infra, mais on adore le marketing dans l'informatique.
Ça, c'est clair. Et bon, et ça, c'est laissé de côté toute une partie des développeurs, les développeurs d'infrastructures. Les gens qui codent justement des infrastructures qui sont pas, parce que quand on parle de développeurs, on faisait plutôt référence aux développeurs applicatifs dans cet exemple-là. Nous, côté Clever Cloud, on a plein de développeurs d'infrastructures qui ils sont appelés à 10 heures de matin. En fait, justement, Laetitia disait très bien, un truc, c'est qu'on a maintenu pendant longtemps les développeurs très loin de la prod. Quelque part, ça a arrangé tout le monde. Ça arrangeait les développeurs qui n'avaient pas de conséquences de ça, mais ça arrangeait aussi la prod qui n'avait pas besoin de former les développeurs à la prod. Et quand un développeur, il travaille sur de la prod, il est appelé à 2h du matin, étrangement, quand il y a une nouvelle feature à faire, c'est le premier à dire « Non, mais peut-être on va vérifier avant de la faire. » Ça change la perspective. Quand tu commences à voir des astreintes, des appels, de l'infrastructure à maintenir, ça change les points de vue énormément.
Oui, c'est clairement vrai. Après, oui, moi, je parle essentiellement de développeurs, donc de logiciels clients, en l'occurrence. Pour nous, on travaille beaucoup avec les professionnels de la santé. Donc, effectivement, on est, c'est oui. pas des développeurs qui font de l'infra. Mais vraiment, oui, c'est nous, on essaye de, pas forcément de les tenir loin de la prod. Il y en a certains qui ont quand même des accès pour des bugs, ce genre de choses. Et puis on leur donne des outils aussi de monitoring ou de pour lire les logs. Mais en fait, on veut surtout optimiser leur temps. C'est-à-dire que en tant que développeur, il y a beaucoup de temps qui est lié à. Alors, contrairement à ce que certains croient, un développeur passe pas toute sa journée à cracher du code non sans cesse. Mais il y a beaucoup de temps de réflexion, d'architecture, tout ça. Mais bon, c'est le métier de développeur qui veut ça. Et donc, on n'a pas envie de les polluer avec des problèmes purement infrastructure. Alors, on peut. Il y a plein de boîtes qui le font, mais donc pour le coup, est-ce que c'est leur passion, est-ce que c'est
ça dépend si ça fait sens. Si un cloud provider comme nous, ça fait sens d'avoir des développeurs d'infrastructure. Dans d'autres boîtes, ça fait pas sens du tout, ça c'est clair.
Moi, je voulais dire, on a le même problème dans Postgres avec les gens qui contribuent le plus à Postgres. Ils n'ont pas le temps d'être proches de la prod. Et du coup, à Montréal, là, on a été à la Unconference. Donc, les Unconference, c'est on choisit des sujets au départ et on en discute ensemble pour qu'il y ait des feedbacks de la communauté sur l'importance des features, etc., et comment les développer. Et j'étais dans cette salle où ils parlaient de comment, s'il y avait des workers d'autovacuum qui étaient au repos, de les utiliser pour paralyser l'autovacuum sur une grosse table. Et il y a quelqu'un, un développeur, qui a sorti « ça ne sert à rien, parce que de toute façon, on a le partitionnement, donc il suffit de partitionner à table, et ce sera automagiquement parallélisé. » Et là, je fais « mais qu'est-ce qu'on fait de tous les cas d'usage où on ne peut pas partitionner ?» Et en fait, ça ne lui était pas venu à l'idée. Et ce qui est encore plus drôle, c'est que donc j'ai expliqué ce point de vue pour défendre des gens que je vois tous les jours qui sont avec des grosses tables, qui ne peuvent pas partitionner pour telle ou telle raison, en expliquant que non, de toute façon, utiliser ces workers qui sont au repos est une bonne idée et qu'il fallait permettre ce genre de choses. Et il y a quelqu'un qui était dans le public qui est venu me voir après en disant « Merci, parce que je suis dans ce cas d'une table énorme que je ne peux pas partitionner. » Et en fait, s'il n'y a pas des gens qui sont proches de la prod, qui vont dire aux développeurs ce qui est nécessaire, même aux développeurs infra, en fait, ils ne vont pas forcément le savoir. Et le pire, en fait, c'est quand on ne sait pas qu'on ne sait pas, on ne peut pas apprendre.
Ouais, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a vu effectivement dans alors projet Postgres, c'est très grand, un gros projet, mais effectivement il y a une partie en tout cas des gros committeurs en fait qui ne font plus, enfin qui, ou je sais pas s'ils ont jamais fait en fait, qui ne gèrent pas de prod en fait, et donc alors leurs développements sont très intéressants. Mais des fois, de mon avis, mais d'hommes du terrain, quoi, ils n'ont pas vraiment d'application immédiate pour la majorité des usages. Donc ça peut arriver aussi, c'est-à-dire que l'open source, c'est l'open source. Donc si vous avez envie de faire quelque chose et que ça vous botte, vous pouvez le faire. Est-ce que ça va vraiment être utilisé après par la majorité des gens qui sont sur vos projets? C'est pas sûr.
Ça rappelle aussi l'importance d'avoir dans les projets des profils divers qui peuvent donner des points de vue complètement différents.
Et aussi, si vous utilisez une fonctionnalité et que vous avez le nom de la personne qui l'a ajoutée au projet, dites-lui merci.
Parce que ça, c'est un point important.
C'est un des rares paiements qu'on a quand on fait du développement open source. Et c'est vraiment sympa de savoir que la fonctionnalité qu'on a développée est utilisée.
Ça, c'est clair.
C'est vrai. Si vous allez en conférence et que vous rencontrez quelqu'un qui avait une feature pour vous, allez juste lui dire merci ou payez-lui une bière, sinon, ou un café.
Les emails sont publics.
Ouais. Mais bon, si tu les vois en vrai, c'est encore mieux.
Oh, comme tout à l'heure, Jonathan parlait, si vous trouvez un committeur, un maintainer qui maintient en vie un des projets que vous utilisez, un petit merci, ça va très loin.
Et souvent, il y a aussi une barrière, je veux dire. La barrière d'entrée dans le code de Postgres est quand même un petit peu haute, je ne vais pas mentir. Mais en fait, j'ai une copine qui est une contributrice majeure de Postgres, qui est, elle est sortie de l'école, elle a commencé à coder en C dans Postgres parce que l'entreprise qui l'a embauchée pour faire ça. Et elle a dit, mais si on m'avait dit que c'était dur, je ne l'aurais pas fait. Et en fait, c'est ça, c'est toute la naïveté. Donc, il ne faut pas hésiter à retrouver sa naïveté d'enfant, à essayer de réparer des choses ou d'améliorer des choses sans penser c'est impossible ou j'y arriverai jamais. Parfois, il faut arriver à tuer cette mauvaise voix dans sa tête et essayer.
Alors, vu qu'on est dans la gouvernance open source,
bah oui.
je vais revenir quand même un petit peu à Incus parce qu'il y avait une petite histoire que j'ai. J'ai pas dit. En fait, le projet était un projet canonical à la base. Enfin, en tout cas, ça s'est fini comme ça, le LXD. Et donc, en fait, le fork est pas venu pour rien. Alors, je vais pas rentrer dans les détails, mais on va dire qu'il y a eu un changement de gouvernance. Voilà. Et notamment, il fallait signer une charte pour pouvoir committer dans le code. Donc voilà, et donc en fait, quasiment tous les gros committeurs du projet en fait sont partis. Il y en a certains qui travaillaient chez Canonical, qui ne travaillent plus chez Canonical pour le coup. Et donc maintenant c'est la Container Foundation, si je ne dis pas de bêtises, qui gère le projet. Donc c'est pour qu'il soit vraiment 100% open source et que personne puisse venir verrouiller un projet après coup, qui est déjà arrivé malheureusement sur d'autres projets.
Donc un peu comme Hudson et Jenkins il y a une quinzaine d'années.
Voilà, donc...
vous savez la ref. Non, mais c'est chouette d'avoir des gens aussi impliqués dans l'open source et qui donnent des perspectives. Comme on parlait tout à l'heure en off, PostgreSQL, c'est un de ces projets qui est un peu un outlier, une exception dans les paysages aujourd'hui. C'est un grand projet massivement utilisé, mais qu'il n'y a pas derrière une grosse entreprise qui les sponsorise. Tu parlais de Canonical tout à l'heure qui a plein de projets open source. On peut penser à plein d'autres projets qui sont soutenus par des boîtes ou par des fondations avec de très grosses boîtes derrière. Et Postgres est un projet purement open source, très indépendant, massivement utilisé. C'est quelque part un peu magique comment ça arrive à évoluer.
C'est même un projet qui a une des licences les plus permissives, puisque la licence PostgreSQL est proche du MIT. En gros, déjà, elle tient en moins de 250 caractères. Et en gros, c'est vous faites ce que vous voulez, mais vous ne nous faites pas de procès. Donc, il serait parfaitement légal de prendre Postgres et de le vendre. Et c'est d'ailleurs ce que font certaines entreprises de cloud. Il y a des très gros qui ont gagné beaucoup d'argent avec Postgres, mais c'est légal et c'est après moi je trouve pas forcément moral de pas contribuer dans ce cas-là, ça ne pose pas de problème au projet en fait. Le projet dit nous on vous propose ça, vous faites ce que vous voulez avec. La manière en fait dont le projet fonctionne, ça s'appelle en français on appelle ça l'anarchie organisée, c'est-à-dire que
anarchie organisée. Oui. J'aime bien les termes.
Les gens proposent des idées. D'ailleurs, il n'est pas nécessaire qu'un problème soit posé pour qu'une solution soit proposée. Donc les gens proposent des idées et après c'est collectivement qu'on décide si on ajoute. Et il ne faut pas qu'il n'y ait une seule personne qui dise non. S'il y a une personne qui dit non, ça veut dire qu'il faut rediscuter. Alors après, si on arrive à la conclusion que la personne est vraiment de mauvaise foi, etc., c'est jamais arrivé. Mais je pense que la core team tranchera dans ce cas-là. Mais généralement, ça se passe très très bien. J'ai vu des gens discuter et changer d'avis.
C'est incroyable. Donc vous êtes vraiment dans un consensus dur et vous arrivez à l'avoir.
Et on arrive toujours à ce qu'à la fin, si la feature est acceptée, c'est qu'il n'y a plus personne qui est contre. Après, parfois sur des features très complexes, ça devient difficile d'avoir suffisamment de gens qui sont capables de discuter de cette feature parce que ça demande du temps d'investissement. De, je ne sais pas combien de personnes dans le monde sont capables de parler des lags NUMA liés aux architectures modernes de processeurs. Mais à mon avis, il n'y en a pas beaucoup. Donc du coup, c'est parfois difficile d'aller dire aux gens, écoute, je pense que toi, tu peux, donc je voudrais que tu regardes cette feature et que tu regardes ce que tu en penses. Après, il y a d'autres gens qui vont regarder juste le code en disant, parce que c'est du C quand même, donc on essaye de ne pas avoir de problème de pointeur, ce genre de choses. Donc, il y a des gens qui vont regarder juste le code sans essayer, juste pour voir s'il est safe. Il y a plusieurs prismes, en fait, qui vont être faits sur le code.
Je trouve ça vraiment passionnant de voir ces détails sur une base qu'on utilise tous, quoi. Bon, je crois que ça fait presque une heure qu'on bavarde. Est-ce que vous avez d'autres petits sujets, d'autres outils, d'autres projets que vous voulez parler?
De quel projet? Alors, oui,
j'ai créé
plusieurs projets, mais dernièrement, en fait, moi, il y a quelque chose qui me rendait folle dans Postgres, c'est que quand on veut se connecter à Postgres avec un client Postgres, donc il y a plusieurs applications clientes. Il y a bien sûr PSQL que tout le monde connaît, mais PGDOM, c'est aussi une application cliente, PG Restore aussi, etc. Et toutes ces applications ont une syntaxe différente pour se connecter.
Oui, j'ai bien remarqué.
Et c'est super pénible. Et alors, j'ai essayé de le changer dans Postgres, vu que Postgres a à cœur la rétrocompatibilité, ça posait problème. Et du coup, j'ai un projet qui s'appelle PG Lord of the Rings, un seul pour les maîtriser tous.
Les noms, il est génial.
C'est un simple script bash, parce que je voulais que ce soit portable et utilisable sur tous les systèmes. Tous les systèmes sérieux, on oublie Windows, sans avoir à installer de trucs en plus. Moi, il n'y a rien qui m'énerve plus que de devoir mettre des librairies Python ou de faire du NPM. Enfin bref, ça m'énerve. Alors que là, c'est un pauvre petit script bash que j'ai créé. La documentation est complète. Il y a la documentation en HTML et la documentation en manpage. J'ai fait des packages Debian et Red Hat. L'idée, c'est simplement d'uniformiser la manière dont on accède aux clients Postgres.
Parfait, on va laisser un lien pour le projet. Merci, l'idée est géniale et le nom, c'est super. Et donc, pour finir, la partie la plus compliquée, il va falloir nous faire une recommandation musicale pour nos auditeurs. Quelle musique vous avez maintenant en tête? Qu'est-ce que vous voulez mettre en tête de nos auditeurs?
Alors, il paraît qu'il n'y a pas tout le monde qui connaît le métal de pirate. Hein. Donc, je conseille Drink par Hellstorm.
Ok, on a notre recommandation musicale. Merci Laetitia, merci Jérémy.
Non, c'est bon, ça me va très bien, l'histoire, c'est super.
Métal de pirate, j'adore l'idée. Merci beaucoup d'avoir été là, j'espère que vous avez trouvé ça amusant.
Oui, toujours.
Et bon, merci à vous d'avoir écouté. À très bientôt, au revoir. The power forever. The riddles of joy, the lock of the world.